ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi, Dorcil et Anastasie Tudiesch, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du mercredi 4 mai 2016. Au sommaire ce soir...
Une nouvelle attaque à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait au moins 17 morts, tous des civils, selon un premier bilan.
Cette situation dénote d'une certaine inefficacité des services. Les assaillants ont fait incursion à partir de 17h et l'intervention n'est arrivée que quelques heures après.
Au Kenya, une attaque à l'anthrax déjouée par la police. Trois suspects sont en détention.
Décès en Belgique de l'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza.
En magazine, nous reviendrons sur les obsèques du musicien Papa Wemba à Kinshasa.
Et politique américaine, le milliardaire Donald Trump, désormais candidat naturel du Parti républicain après sa victoire dans l'Indiana et le désistement de son principal rival Ted Cruz.
Et bien sûr, nos pages sport et économie, juste après le journal.
Nouvelle attaque à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 17 civils ont été tués dans la localité d'Erengeti, un coin où l'armée nationale mène une opération de sécurisation depuis quelque temps. Les autorités congolaises attribuent l'attaque aux rebelles islamistes ougandais des ADF. Eddy Sango a joint sur place le porte-parole de l'opération Sokola 1 de l'armée congolaise, le lieutenant Mac Asukai.
L'ennemi que nous combattons depuis dans le territoire et ville de Beni, ce sont les intégristes islamistes de l'ADF. Il a utilisé le même mode opératoire. Quand il s'est infiltré dans notre dispositif, il a atteint la banlieue de Erengeti. Il a tué par arme blanche et par balle 17 personnes, dont 10 femmes. Et parmi les 10 femmes, là, nous avons enregistré 3 qui étaient grosses, qui étaient enceintes, et puis 4 fillettes. Vous savez qu'autour de Erengeti, il y a une ceinture de sécurité qui a été placée. L'ennemi a profité de l'obscurité. Parce que c'était hier à 19h45, il a profité de l'obscurité pour s'infiltrer dans le dispositif afin d'atteindre la banlieue de Erengeti, plus précisément dans la localité dont je vous ai parlé, et c'est là où il a commis le forfait.
Le porte-parole de l'opération Sokola 1 de l'armée congolaise, le lieutenant Mac Asukai à Beni.
La police kényane a annoncé avoir arrêté 3 Kenyans suspectés d'appartenir à un réseau terroriste œuvrant pour le groupe État islamique et qui, selon elle, préparait une attaque à l'anthrax. Des affirmations tempérées aujourd'hui par des sources sécuritaires occidentales. Nanit Talani donne les détails.
Dans un communiqué diffusé hier soir, le chef de la police kényane, Joseph Boinet, a annoncé que les 3 suspects, un homme et 2 femmes, arrêtés vendredi, appartiennent à un réseau terroriste est-africain lié à un groupe État islamique. Ils sont accusés d'avoir planifié des attaques à grande échelle, incluant une attaque biologique au Kenya à l'aide d'anthrax. Mohamed Abdi Ali, le leader présumé du groupe, étudiant en médecine de Wote, localité à 130 km au sud-est de Nairobi, a été arrêté au Kenya et est en détention pour 30 jours, le temps pour les enquêteurs d'assembler des preuves. Ses 2 complices, dont son épouse Nuseiba Mohamed Adi, interne en médecine, et une autre femme, Fatouma Mohamed Anchi, ont été appréhendés en Ouganda, pays frontalier du Kenya. 2 autres suspects, Ahmed Ish et Farah Dagne, également étudiants en médecine, sont en fuite.
Décès aujourd'hui de l'ancien président burundais Jean-Baptiste Bagaza, qui a dirigé le Burundi de 1967 à 1987. Selon sa famille, il est mort à l'hôpital Sainte-Élisabeth de Bruxelles, 10 jours après une évacuation sanitaire du Burundi vers la Belgique. Le gouvernement burundais a proclamé un deuil national de 3 jours en l'honneur du disparu, qui est l'une des rares personnalités politiques du pays à faire l'unanimité après sa mort. Le président Pierre Nkurunziza a fait part de sa très grande tristesse. Et le CNARED, la plateforme rassemblant la quasi-totalité de l'opposition au président Nkurunziza, dit avoir perdu un pilier de sa lutte pour un Burundi meilleur.
Le procureur général du Faso, Laurent Poda, a animé ce mercredi une conférence de presse pour expliquer les motifs de l'inculpation et de la mise aux arrêts de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré. Cette affaire vient s'ajouter à l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro, Blaise Compaoré et autres personnalités. Le dernier rebondissement est le désistement d'Interpol dans l'application du mandat d'arrêt contre Soro. Écoutons le procureur général du Burkina Faso, Laurent Poda.
C'est par courrier daté du 29 mars 2016 que le doyen des juges d'instruction du tribunal militaire de Ouagadougou m'a saisi pour me demander l'ordre d'arrêter, d'inculper, d'entendre et de détenir Maître Traoré Mamadou. Il appert, c'est-à-dire qu'il résulte des indices graves et concordants susceptibles de motiver l'inculpation de Maître Traoré Mamadou, avocat à la cour, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Burkina Faso, pour attentat à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, complicité d'enlèvement et de séquestration, complicité d'actes de terrorisme, complicité de crimes contre l'humanité, complicité de meurtre, complicité de coups et blessures volontaires, complicité de dégradation volontaire aggravée de biens, ensemble et de concert avec Djengiré Gilbert et autres.
Le procureur général du Faso, Laurent Poda.
Le troisième épisode d'Ebola au Libéria serait officiellement terminé. Les deux derniers malades, deux frères âgés de 2 et 5 ans, ont, selon le ministère de la Santé, bien réagi au traitement et sont guéris depuis la semaine dernière. Le ministère précise que la sortie d'hôpital du dernier patient déclenche le compte à rebours de 42 jours pour proclamer de nouveau la fin de la transmission d'Ebola dans le pays. Parti en décembre 2013 du sud de la Guinée, l'épidémie d'Ebola a fait officiellement plus de 11 300 morts en Afrique de l'Ouest, essentiellement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, dont 4 808 dans ce dernier pays.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection pour un cinquième mandat du chef de l'État Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans. Idriss Déby a obtenu 59,92% des voix dès le premier tour, suivi par le chef de file de l'opposition, Salé Kebzabo, avec 12,77% des suffrages.
Au Mozambique, les contributions de l'ensemble des pays et institutions au budget de l'État, une aide estimée à 265 millions de dollars pour 2016, ont été suspendues temporairement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, discussion à Berlin et réunion du Conseil de sécurité pour tenter de rétablir le cessez-le-feu en Syrie. Les principaux pays de la coalition internationale menée par les États-Unis pour combattre le groupe État islamique se sont engagés à accroître les moyens de lutte alors que Washington multiplie les appels en ce sens. Nathalie Barge.
Nous réaffirmons notre plein soutien pour déployer des capacités supplémentaires à court terme, ont indiqué dans un communiqué les ministres de la Défense de 8 pays européens, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis, à l'issue d'une réunion à Stuttgart en Allemagne. Ce renforcement vise notamment à accélérer l'effondrement du contrôle de Mossoul et Raqqa par le groupe État islamique, indique le texte. En agissant de la sorte, nous pouvons amplifier le mouvement en faveur de nos partenaires sur le terrain et nous rapprocher d'une défaite durable de l'État islamique, ont ajouté les ministres. Cet engagement survient alors que Washington multiplie les appels à davantage de mobilisation de ses alliés en Syrie et en Irak. À l'issue des discussions, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, s'est dit confiant sur le fait que la réunion devrait déboucher sur des engagements militaires accrus. Ce mercredi est également prévue une réunion du Conseil de sécurité pour tenter de rétablir le cessez-le-feu en Syrie.
Les citoyens turcs vont bientôt pouvoir voyager sans visa dans l'espace Schengen pour une période ne dépassant pas 90 jours. La mesure réclamée par Ankara en contrepartie de sa coopération dans la crise des migrants en Europe est assortie d'un grand nombre de conditions. L'une des plus importantes est la détention d'un passeport biométrique aux normes de l'Union européenne. Une version intermédiaire sera toutefois autorisée jusqu'à la fin de l'année. Le gouvernement turc devra aussi mettre en œuvre des réformes de sa législation anti terroristes dans le domaine de la coopération judiciaire avec l'Union européenne ou celui de la protection des données.
Campagne électorale aux États-Unis, le dernier rival du milliardaire Donald Trump aux primaires républicaines, le gouverneur de l'État de l'Ohio, John Kasich, devrait annoncer ce soir son retrait de la course à la Maison-Blanche. Selon les chaînes de télévision américaines, Donald Trump était déjà considéré comme le candidat présumé du parti depuis sa grande victoire hier aux primaires de l'Indiana, un succès retentissant qui a conduit son principal rival, le sénateur Ted Cruz, a jeté l'éponge hier soir.
I've said that I would continue on as long as there was a viable path to victory. Tonight, I'm sorry to say that path.
Depuis le début, j'ai dit que je continuerai aussi longtemps qu'il y aura une voie vers la victoire. Ce soir, je suis désolé de le dire, nous suspendons notre campagne.
Donald Trump n'a pas encore atteint la majorité des 1237 délégués requise pour décrocher l'investiture de façon automatique, mais la probabilité qu'il y parvienne d'ici aux dernières primaires du 7 juin a fortement augmenté. Dans son adresse, le magnat de l'immobilier a tenu à rappeler qu'il a passé toute sa vie à compétir.
Toute ma vie, j'ai été en compétition, différentes compétitions, qu'il s'agisse de sport ou des affaires, ou comme maintenant depuis 10 mois, la politique.
Chez les démocrates, Bernie Sanders a remporté la primaire de l'Indiana devant Hillary Clinton, qui se prépare cependant au probable match contre Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain.
Georges Léonard Sagnot.
Le travailliste Sadiq Khan est en passe de devenir maire de Londres et le premier maire musulman d'une grande capitale européenne lors d'élections régionales qui verront aussi le renouvellement des assemblées régionales d'Écosse, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles. Les bureaux de vote, rappelle l'AFP, ferment à 21h. Les résultats ne sont pas attendus avant vendredi après-midi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et nous passons tout de suite à l'actualité économique avec Nathalie Barche.
Le président burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré, en visite en Arabie Saoudite, a invité les investisseurs saoudiens à explorer le marché burkinabé, indique l'APA. Monsieur Kaboré, qui s'est entretenu avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabia, a mis l'accent sur l'or et le coton. Le ministre saoudien a annoncé qu'une mission de prospection au Burkina Faso est à l'étude. La visite du président Kaboré en Arabie Saoudite prend fin jeudi. L'entreprise pétrolière nigériane Yinka Folawiyo Petroleum a commencé l'extraction de pétrole au large de Lagos, une première au Nigeria, où la production est concentrée dans le delta du Niger, rapporte l'AFP. L'entrée en activité de ce nouveau champ, qui est le fruit de plus de 25 ans d'exploration, fait de l'état de Lagos un nouvel état pétrolier. Selon l'OPEP, le Nigeria produit 1,8 million de barils par jour. La chute mondiale des cours du brut depuis 2014 a engendré une crise économique et financière majeure dans le pays. L'Afrique du Sud, souhaitant renforcer ses échanges commerciaux avec les pays du continent, compte d'ici 2019 leur faire atteindre 35,7 milliards de dollars, a déclaré la ministre de la Coopération, Maite Nkwana Mashabane. Avec des efforts supplémentaires de diplomatie économique, les échanges commerciaux sud-africains avec le reste du monde peuvent atteindre 143 milliards de dollars d'ici la fin du mandat de l'administration actuelle, a-t-elle estimé.
Place au sport maintenant avec vous, Nicolas Pinault. Bonsoir.
Bonsoir, Anastasie.
La dernière demi-finale de la Champions League, c'est ce soir ?
Oui, à Santiago Bernabéu, le Real Madrid accueille Manchester City. Après le nul 0-0 à l'aller, les Madrilènes de Zinedine Zidane comptent sur le retour de Cristiano Ronaldo pour faire la différence.
Hier soir, le Bayern de Munich a été éliminé.
L'Atlético Madrid s'est qualifié pour sa troisième finale de Ligue des Champions aux dépens du Bayern Munich, en dépit de sa défaite de 2-1, c'était hier soir à l'Allianz Arena, en demi-finale retour de cette Champions League. À l'aller, l'Atlético l'avait emporté 1-0 et se qualifie donc grâce à son but marqué à l'extérieur. Un mot de football anglais également, Anastasie, pour parler de Moussa Dembélé qui risque une lourde suspension, mise en accusation par la fédération anglaise pour comportement violent lors du match de championnat face à Chelsea. Le milieu de terrain belge avait planté ses doigts dans les yeux de l'attaquant des Blues, Diego Costa, au cours d'une échauffourée. Si l'international belge est reconnu coupable, la fédération estime que les 3 matchs de suspension habituels ne seraient pas suffisants.
JO 2016, tirage difficile pour les équipes africaines de handball.
Chez les hommes, les Égyptiens ont été plutôt épargnés, contrairement aux Tunisiens. Et chez les dames, les Angolaises ont hérité d'un groupe très relevé.
Et basketball maintenant avec la NBA et le championnat de basket nord-américain.
Golden State a enchaîné une deuxième victoire de rang face à Portland, 110-99 hier lors des demi-finales de conférence, tandis que Miami a débuté sa série face à Toronto par un succès 102-96.
Merci Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Anastasie Tudiache et Chérubin Gabi Dorsil. Place au dossier du jour, notre première escale ce soir, Dakar.
Lundi dernier, le Sénégal et les États-Unis ont signé un accord de coopération militaire. Un accord flexible, selon les autorités des deux pays, puisqu'il ne concerne pas seulement le volet sécuritaire. Toutefois, des voix s'élèvent pour demander les soubassements d'une telle entente. De Dakar, le reportage tout de suite de Sokhna Natambaye.
Une première dans l'histoire du Sénégal et de l'Afrique subsaharienne. C'est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères a qualifié l'accord en matière de défense entre notre pays et les États-Unis. L'armée américaine aura donc une base à Dakar. Mankeur Ndiaye.
Il définit les conditions d'installation de séjour des militaires américains au Sénégal, avec les privilèges et les immunités qui leur sont accordés et qui permet de renforcer la coopération entre les États-Unis et le Sénégal en matière de sécurité et de défense pour faire face à tous les défis.
Dans un contexte de lutte contre le terrorisme, il est évident que les deux nations puissent unir leurs forces. Peter James Zumwalt, ambassadeur des États-Unis à Dakar.
Cet accord va renforcer nos coopérations dans le domaine de la sécurité aux droits et aux responsabilités pour notre force armée quand nous sommes invités au Sénégal.
Mais il y a un hic, selon Chersad Boufal. Cet ancien ministre de l'Intérieur, Souad, estime que l'installation de la base est contraire au principe de souveraineté nationale.
Je crois que la souveraineté d'un pays exige que normalement qu'il n'y ait pas de base étrangère sur le sol national. Nous avons des forces armées assez aguerries et assez bien équipées pour assurer la sécurité du territoire.
En plus, l'accord dans son ensemble aurait dû être soumis au peuple.
Espérons qu'avant la mise en œuvre de cet accord, que cette procédure-là sera respectée et que les Sénégalais vont être informés des tenants et des aboutissants.
Si l'on se fie au ministre des Affaires étrangères, il n'est pas trop tard. Mankeur Ndiaye.
Nous allons tout mettre en œuvre pour que l'accord puisse rapidement être adopté par le Conseil des ministres et soumis à l'Assemblée nationale pour ratification.
Alors, une question reste en suspens. Est-ce que le Sénégal va tirer largement profit de cet accord, cher Sadi Boufal?
Une base, ça coûte cher. Si le Sénégal met à disposition des États-Unis plusieurs endroits pour pouvoir effectivement implanter cette base-là, forcément, il va y avoir un retour.
Peter James Zumwalt veut mettre l'accent sur la flexibilité de l'accord. Il ne s'agit pas seulement de permettre aux États-Unis d'avoir un pied à Dakar et défendre leurs intérêts.
Le prochain attentat ou le prochain problème peut être un autre malade, ça peut être un désastre naturel, ça peut être un acte de terrorisme, on ne sait pas. Et cet accord est très flexible.
En ce qui concerne la concrétisation de l'accord, les locaux seront construits par les États-Unis. Les personnels de la base vont bénéficier de certains privilèges, entre autres. Par ailleurs, à retenir que l'accord annule et remplace celui concernant le statut du personnel américain militaire et civil du département de la défense des États-Unis. Sokhna Natambaye, Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
L'ancien président du Burundi, Jean-Baptiste Bagaza, est décédé ce matin à Bruxelles, en Belgique, à l'hôpital Sainte-Élisabeth. Âgé de 69 ans, le colonel Bagaza a pris le pouvoir après un coup d'État contre le général Michel Micombero le 1er novembre 1976. Mais il fut renversé le 3 septembre 1987 par le major Pierre Buyoya. Il était sénateur à vie, comme tous les autres anciens présidents burundais encore en vie. Le gouvernement de Bujumbura a décrété un deuil national de 3 jours pour lui rendre hommage. Eric Manirakiza a joint à Bruxelles l'ex-président Sylvestre Ntibantunganya.
Un grand homme de la vie politique du Burundi du XXe siècle, quand on sait ce qu'il a laissé dans son pays, notamment en ce qui concerne sa vision et sa politique en matière de développement économique, la très large majorité des infrastructures sur lesquelles fonctionne aujourd'hui l'économie burundaise, nous le devons au président Jean-Baptiste Bagaza. Je vois ici la construction des routes, notamment des routes macadamisées, la dotation du pays un peu d'énergie hydroélectrique que nous avons et beaucoup d'entreprises d'État dans beaucoup de secteurs, la mise en place d'un système d'assurance avec la mise en place de la société Sokabu. Tout cela constitue le grand apport que Jean-Baptiste Bagaza a fait pour le Burundi. En ce moment, il est de notre devoir de lui rendre hommage et de nous associer, bien sûr, à tout le peuple burundais en général, cette perte énorme que le pays vient de subir.
Vous avez eu à discuter à plusieurs reprises. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait reconnu certaines erreurs desquelles?
Bon, il avait une façon à lui d'expliquer, effectivement, notamment ce qui concerne le conflit qu'il y avait eu entre lui et l'Église catholique. Et en disant que des fois, il y en avait qui avaient tendance à se mettre au-dessus de l'État, mais que jamais ils ne voulaient remettre en cause la laïcité de l'État d'un côté, mais également le droit des Burundais d'être libres dans leur choix confessionnel. J'avais l'impression qu'il avait une sorte de regret qu'il avait d'avoir été mal compris en ce qui concerne comment il avait traité le nom du prince Rwagasore.
Et quel a été particulièrement son apport pendant les accords d'Arusha?
Je me souviens de beaucoup de séances que nous avons passées ensemble, une délégation du parti Sawanya Frodebo, une délégation du Parena, essayant d'arrondir les angles autour des questions fondamentales, ce qui a favorisé d'ailleurs l'obtention plus tard de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Je me souviens également de la mise sur pied de cette organisation ANAC, Alliance Nationale pour le Changement, qui avait été pensée et mise en place à Bujumbura et permettant la détente des relations entre les deux partis, le Parena et le parti Sawanya Frodebo, et apprendre à se tolérer même quand il y a de graves choses dont on s'accuse et savoir mettre toujours en avant l'intérêt supérieur du pays. Ce qui a été fait à cette époque-là sous le leadership du président Jean-Baptiste Bagaza.
L'ex-président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya, joint à Bruxelles, en Belgique.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Donald Trump a emporté 53% des voix républicaines dans l'Indiana contre 37% pour son rival Ted Cruz, qui a décidé de se retirer de la course à la présidentielle aux États-Unis. Qu'est-ce que cela signifie pour le camp républicain et pour les électeurs? Salwa Jafari a posé la question à l'analyste Brett Bruen, président de Global Situation Room à Washington.
And so, with a heavy heart,
et avec un cœur lourd, mais avec un optimisme sans borne pour l'avenir à long terme de notre nation, nous suspendons notre campagne.
We are suspending our campaign.
Ted Cruz jette l'éponge après une 15e victoire pour Donald Trump. Le milliardaire a terrassé son rival et a désormais la quasi-certitude d'être le candidat des Républicains à la présidentielle de novembre, laissant présager un face-à-face ultime avec la démocrate Hillary Clinton.
Il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que les leaders républicains acceptent que Trump va être leur candidat. Mais le problème pour le parti républicain, c'est qu'il y a des candidats pour le Sénat, pour la Chambre des représentants, qui pourraient être blessés par la candidature de Trump. Et pour les commentaires qu'il fait par rapport aux femmes, par rapport aux minorités ici aux États-Unis. L'autre possibilité, c'est que les leaders républicains vont essayer encore une fois d'arrêter la candidature de Trump.
Les supporters de Cruz ne cachent pas leur déception, surtout que les deux hommes se sont livrés à une bataille sans scrupules ces deux dernières semaines.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que celui qui va gagner l'élection présidentielle est un démocrate. Alors, le pays va courir à sa perte.
Il y a une certaine partie des supporters de Cruz qui vont aller avec Trump. Mais il reste une bonne partie des supporters qui auront des difficultés à donner leur soutien à Trump. Et c'est-à-dire qu'on pourrait voir l'émergence d'un candidat qui représente plutôt la partie droite, ou extrême droite des républicains.
He is one hell of a competitor. He is
Trump arrivera-t-il à se réconcilier avec le reste du parti? Il a en tout cas jusqu'au 18 juillet pour y parvenir.
And he has got an amazing future.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Après 3 jours d'obsèques, l'artiste Papa Wemba a été conduit ce mercredi à sa dernière demeure dans la banlieue de Kinshasa. Peu avant l'inhumation, une messe de suffrage a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo par le cardinal Laurent Monsengwo, en présence de nombreuses personnalités politiques, d'artistes musiciens et de nombreux fans du roi de la rumba congolaise. Écoutons ce reportage de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
De la messe de suffrage, le cardinal Laurent Monsengwo Passignan a déclaré que les deux Congos et l'Afrique entière ont pleuré cet artiste musicien. Et pour le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Nicolas Diomon, la qualité de son œuvre a fait de Papa Wemba un citoyen du monde. Émile Ngoï Kasungo, membre de la majorité présidentielle, témoigne en faveur du défunt qu'il a connu à Paris en France dans les années 80.
Mon idole, la référence, était Papa Wemba. Au début des années 80, Papa Wemba était régulièrement meilleur musicien, meilleure chanson, meilleur orchestre. Ce qui m'a marqué chez lui, d'abord lui-même. Papa Wemba, c'était quelqu'un qui avait quelque chose de magique. Quand il est là, dans un concert ou bien à l'époque dans les prestations, il s'est distingué toujours. Et je garde de lui un grand témoignage, puisque jeune étudiant à Paris, dans les années 80, 1982, j'ai reçu de Papa Wemba vraiment des conseils qui étaient prémonitoires. Papa m'avait demandé, il faut que j'étudie parce que demain, ce pays aura besoin de moi. Et aujourd'hui, je ne pouvais que lui rendre grâce.
Clément Kang, député de l'opposition, a déclaré que Papa Wemba est un citoyen du monde qui s'est éteint, mais son art va le faire revivre dans les esprits.
Écoute, c'est quelqu'un qui est parti de rien pour arriver à ériger le monument que nous sommes en train de pleurer aujourd'hui. Je crois que Papa Wemba reste au moins un modèle pour la jeunesse. Vous avez vu comment il a marqué son temps, comment il a marqué son époque, comment il a marqué des générations. Un chef même qui est arrivé à ce niveau aujourd'hui, avec tous les hommages qui lui sont rendus à travers le monde. Je crois que cela ne peut être qu'un modèle qu'il faut suivre. Pour moi, je crois que Papa Wemba reste dans les esprits, reste dans les annales.
Toutes les catégories socio-professionnelles ont assisté à la messe de suffrage à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour la VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Papa Wemba est mort, viva la musica, et c'est d'ailleurs le titre de ce morceau. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Morissin qui était à la mise en onde, assistée à la console de Souleymane Tarawalé. À la présentation, c'était Chérubin Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.